voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Émilie découvre le yoga il y a une dizaine d'années, tout en poursuivant sa pratique de la danse et du taekwondo. La place du mouvement dans l'espace et la découverte du corps en contrôlant sa respiration jouent un rôle essentiel pour les méthodes qu'elle applique aujourd'hui. Devenue professeure des écoles tout en restant à l'écoute du corps, des attitudes et des regards, Émilie partage alors ses connaissances avec les enfants. Portée par un enthousiasme et un désir d'approfondir ses connaissances, Émilie devient professeure de yoga et d'acro-yoga. Elle tente de trouver des nouvelles clés pour l'enseignement du yoga vers les plus jeunes. Pour cette émission La Voix du Kaizen, Émilie m'accueille chez elle et me parle de son métier de maîtresse d'école.
Oh, mais j'ai toujours voulu enseigner, c'est quelque chose qui fait partie de moi, de transmettre. Donc à travers mes études, d'abord de sociologie, d'anthropologie à la faculté, j'ai travaillé sur les métiers de bouche, sur la gastronomie, sur le partage et leur vision d'une identité, la vision d'une identité gastronomique. Et puis, au fur et à mesure de mes études, il fallait que je trouve un peu de quoi me nourrir pour continuer de produire ma thèse. Et puis, j'ai passé le concours d'instit et puis finalement, ça a été une révélation. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai terreau, il y avait un vrai potentiel et que finalement, c'était moins riche que ce que j'imaginais et que peut-être j'avais des choses à partager avec les enfants.
Oui. Ouais. L'éducation nationale, donc quelle est ton expérience dans ce système-là et comment est-ce que tu t'y retrouves ?
Disons que ça a été quelques années éprouvantes au début de ma carrière, où vraiment on est ballotté dans tout le département. Moi, je suis dans le 92. Et du coup, c'était très riche parce que j'ai bougé dans tout le département. J'ai fait des remplacements à tous les niveaux, de la maternelle au CM2. Et j'ai rencontré plein d'équipes, du coup, énormément de pédagogie différenciée et de pédagogie différente aussi, de personnalité. Et puis j'ai eu un poste fixe à la naissance de ma fille et j'ai pu m'arrêter. C'est souvent aussi valorisé dans l'éducation. Dès qu'on a des enfants, on a aussi cet avantage de pouvoir se rapprocher un peu de sa propre famille. Et du coup, j'habitais Paris et Clichy était donc la ville un peu la plus proche de Paris. Et j'ai eu un poste en maternelle. Et ça fait 7 ans, mais ça fait 14 ans que j'enseigne.
Est-ce que le fait d'être maîtresse, ça aide pour y voir plus clair dans la manière dont on peut élever son enfant ?
Alors, ça donne un panel, ça donne une vision élargie des différentes façons d'élever un enfant. Parce que du coup, on est confronté à plein de questions de parents qui viennent en classe et qui nous disent « Oh, j'arrive pas à faire ça » ou « Est-ce que vous pourriez pas me donner des clés pour ça ?» Du coup, il y a aussi ces réflexifs. Je me dis, ah tiens, c'est vrai, j'ai pas regardé ça comme ça aussi dans ma maison. Pourquoi ne pas essayer ça ? Donc c'est un peu, c'est par essai et aussi parce que chaque enfant est singulier, que dans chaque famille on ne sait pas vraiment ce qui se passe et que donc on peut donner des clés, en tout cas qu'on pense qui se sont avérées efficaces, mais on ne peut pas savoir exactement ce qui va être vraiment positif pour cet enfant, ce qu'il va pouvoir réceptionner comme quelque chose de concret, d'apaisant et de stable si on cherche ça. En revanche, l'inconvénient d'être enseignant et maman, c'est que c'est un métier qui a des journées très très bruyantes, avec un niveau sonore extrêmement élevé, des exigences énormes, avec des parents extrêmement exigeants, une équipe enseignante souvent foisonnante d'idées, donc il faut suivre, beaucoup de complexité au niveau de l'administration, puisque maintenant on est polyvalent, on doit s'occuper de plein de choses à la fois, très peu de secours de la part de la hiérarchie si on est face à des problèmes, et quand on rentre à la maison, on enlève la casquette, mais non, en fait, par moments, c'est un peu compliqué, parce que pour moi, il y a trop de bruit à la maison, donc on doit parler doucement, ce qui est quand même un peu pénible pour ma fille, qui est pleine de vie, et qui a envie aussi de dire « Hey !» notre patience est quand même souvent amoindrie, parce que le soir, on a tout donné, donc on a juste envie d'être calme. Et après, je pense qu'on est aussi très exigeant au niveau des devoirs et de toutes les connaissances. Parfois, ça peut nous jouer des tours. Et c'est la raison pour laquelle je me suis... Enfin, doucement, la vie a fait que je faisais du yoga depuis longtemps, mais que ça m'a aidé vraiment à apaiser cette double casquette et mes exigences et aussi à revoir le quotidien avec elle, en fait.
On va parler du yoga, parce que je sais que tu l'enseignes aussi avec des enfants, donc je m'interrogeais là-dessus. Mais avant, tu es maîtresse, hein, tu es maman, et donc ta fille va aussi à l'école aujourd'hui. Il y a dans tout un panel de manières différentes d'éduquer son enfant. De plus en plus d'écoles alternatives sont en train de se monter. Donc quel est le choix que tu as fait en termes éducatifs pour ton enfant? Et comment est-ce que tu perçois toutes les différentes formes de pédagogie qui sont en train d'émerger aujourd'hui? Parce que c'est une question qu'on se pose quand on est maman ou quand on est parent. Dans quelle école? Où est-ce que je vais mettre mon enfant? Et comment est-ce qu'on peut faire les bons choix? Quelles sont les clés que tu aurais à donner? Ou comment est-ce qu'on choisit l'école dans laquelle on va mettre son enfant?
Nous, la question, on était dans un arrondissement parisien. Et donc, du coup, la question ne s'est pas posée d'une autre école que celle du quartier. Aussi, c'est vrai que je valorise beaucoup l'école publique et je vois l'investissement des collègues, je vois vraiment tout ce qu'on est capable de faire ensemble et aussi la désertion, je dirais même, des familles vers le privé. Moi, il n'a jamais été question de ça. Je voulais que ma fille puisse avoir une ouverture d'esprit, vraiment une hétérogénéité des cultures, des familles, des activités. Pour moi, c'est un terreau de richesse. Après, je trouve que l'émergence de cette valorisation des éducations alternatives, c'est positif quand on cherche à faire en sorte que son enfant se sente mieux s'il ne se sent pas forcément bien dans un cursus standard. Il y a énormément de choses à revoir dans l'éducation nationale et les programmes et la façon dont ils sont faits, pour ma part. Je pense qu'il y a vraiment des choses de fond à revoir, notamment sur... Non, je pensais en histoire, si tu veux, les sauts qu'on fait et les pans entiers d'histoire qu'on a oubliés ou qu'on a sélectionnés. Je trouve ça un peu grotesque. Et je trouve qu'aussi les méthodes qu'on nous impose, parce qu'on n'a pas vraiment un choix pédagogique pour apprendre à lire et à écrire, bon, eh bien, ça colle pas avec tous les enfants et que ça devient compliqué. Et que du coup, cet enseignement alternatif est très valorisable. Je trouve que c'est vraiment bien. Aujourd'hui, à Paris, c'est vrai que malheureusement, c'est pas forcément les enfants qu'on a le plus besoin, qui ont accès, étant donné les prix. Le coût à l'année est fulgurant et c'est vrai que ça va valoriser des enfants qui sont déjà un peu valorisés, c'est-à-dire ce sont des écoles souvent bilingues avec une pléthore d'activités et plusieurs enseignants dans une classe et ça a un coût et c'est dommage parce que finalement il y a énormément d'enfants qui ont un potentiel incroyable qui n'auront jamais accès à ça et qui sont aussi immergés dans des classes avec 30 gamins, avec tous des personnalités riches, mais un enthousiasme parfois débordant, parfois trop, et puis des chemins de vie déjà précocement difficiles, et ils auraient besoin de ça, qu'on les écoute plus, mieux, même de ma part, hein, j'ai 26 élèves, parfois, et j'ai 3 enfants handicapés, parfois, on passe à côté de moments, en tout cas clés, où on peut être là pour eux. Et ça, c'est frustrant, mais et ça me met parfois dans une grande colère et une grande rage, vraiment. Et que je partage avec plein d'enseignants, hein, je veux dire.
Donc le côté privé, finalement, ça va encore créer un clivage et créer des enfants un peu élitistes.
Oui, moi j'imagine ça. Mais je comprends très bien certaines décisions de parents quand... c'est comme un peu un apaisement, parce que c'est plutôt... Je pense que c'est vraiment... Les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe et donc ils ont peur. Et c'est la peur qui prend ce genre de décision. Parce qu'ils se disent « Oh là là, mais il va jamais s'en sortir, il y a trop d'enfants turbulents, il y a beaucoup d'agressivité dans cette école. » Et donc du coup, hop, il vaut mieux que je le mette dans une école un peu privilégiée, avec des enfants privilégiés, comme ça il va grandir avec ce milieu-là, et au moins, ce sera un souci en moins. Or, il me semble pas que ça se réfléchisse comme ça, parce que dans les écoles publiques, ça se passe bien. C'est parce qu'on a peur de ça. Évidemment, il y a plein d'histoires et c'est normal. Et puis, mais c'est pas le problème de l'école, c'est le problème de l'éducation nationale où devrait limiter un peu le nombre d'enfants par classe. Et là, mais on ouvrirait un champ incroyable de possibilités. Donc voilà, je peux les comprendre. Mais maintenant aussi l'entrée dans les écoles privées se fait de plus en plus précoce. Donc c'est dès la maternelle, comme il y a tellement plus de place. Voilà, et donc du coup, on ghettoise certaines écoles. Et effectivement, à la fin, on se pose vraiment la question. Moi-même, je me suis posé la question quand je travaillais ici en disant, bon, je vais peut-être prendre ma fille, pourquoi pas. Et après, c'est vrai que je me suis dit, est-ce qu'elle va avoir les clés pour se concentrer, est-ce qu'elle va avoir... Et en fait, la question ne se pose pas. Je pense que si les parents sont à côté, et si les parents sont un soutien et se posent et partagent, ben, les choses se font. Mais aujourd'hui, les parents courent et les enfants voilà, doivent se dépêcher tout le temps.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Est-ce qu'il y a un travail qui est fait entre les instituteurs et les parents dans ta classe? Est-ce que tu as des rencontres? Est-ce qu'il y a des échanges?
Bon, la première difficulté qu'on rencontre, c'est que les parents, ils imaginent que c'est à l'école que les enfants vont apprendre tout. C'est de l'instruction, donc, mais aussi de l'éducation. C'est-à-dire que les petits enfants un peu speed, bon, qui manquent un peu de règles sociales, même de politesse, des choses vraiment toutes simples de première socialisation ne sont pas faites. Et du coup, ils arrivent dans l'école et ils disent « Ah, mais c'est pas grave, à l'école, elle va le faire, la maîtresse. » Et le problème, c'est ça, c'est qu'on perd beaucoup de temps à instaurer juste des clés de savoir-vivre, d'être ensemble. Donc même si l'école maternelle est l'ouverture à l'être ensemble, les premières expériences, ça doit se faire ensemble. Et les parents ne sont pas toujours réceptifs à ça. Ils donnent le bébé, mais vraiment physiquement et de façon métaphorique, si tu veux. En élémentaire, certainement également. En maternelle, déjà, le parent rentre dans la classe. Donc, il y a toujours ce contact, il y a toujours ce lien. On questionne, on partage, on fait un point. On peut inviter les parents à venir parler d'un sujet qui leur tient à cœur. L'année dernière, j'avais 11 nationalités dans ma classe, ce qui était incroyable. Il faut dire qu'à Clichy, il y a 82 ethnies différentes. C'est la commune la plus riche. Du coup, j'ai travaillé sur justement cette diversité culturelle et cette richesse. Il y avait des chanteurs de gospel, enfin, il y avait des parents qui faisaient plein de choses. Donc, je les ai invités à venir partager. Et donc, ils ont parlé de ce qu'ils faisaient. Et ça, c'était riche. Ou on fait aussi rentrer les parents pour une matinée de jeux. On va travailler sur les jeux mathématiques ou autour de l'histoire, au niveau du langage, des choses comme ça.
Est-ce que tu peux me parler du yoga et peut-être de ton itinéraire à toi par rapport à cette discipline et qu'est-ce qui a fait que tu aies envie de la faire rentrer dans les écoles?
J'ai une association et je travaille pour des studios et je donne aussi des cours privés pour les enfants où je travaille aussi à l'extérieur, donc dans différents endroits où je donne des cours parents et enfants. Donc du coup, je valorise ce lien-là, le contact aussi, dans la fratrie, dans la famille, et à l'école, parce que c'est facile, j'y suis tous les jours.
Qu'est-ce que le yoga peut apporter aux enfants?
Très simplement, quelque chose qui est visible, que tout le monde peut voir, c'est que les stimuli visuels, sensoriels sont énormes. Les enfants sont accaparés par tout ce qui est écran. Ils sont sans cesse devant des médias différés et les parents courent et on le comprend très bien. Ils sont toujours en train de demander aux enfants de se dépêcher et ils compensent aussi ce manque de présence par des compensations monétaires, commerciales, des jeux, des trucs et des écrans. Et en même temps, il y a de plus en plus de familles qui se séparent. Les enfants sont au milieu de grands stress, de grande anxiété, qui ne se voit pas toujours, en fait. On comprend pas très bien si un enfant est très colérique ou quoi. On va lui dire, oh, c'est un enfant est mal élevé, ou on va tout de suite stigmatiser sa famille. Or non, il vit des choses, il les comprend pas, on lui donne pas les moyens, et ça sort. Et tant mieux si ça sort, maintenant. Donc, face à ça, le yoga, il permet de trouver quelques clés, des clés, pas que quelques, mais en tout cas, déjà, dès la première enfance, pour s'apaiser seul, pour s'écouter. Du coup, ça va permettre aussi de se concentrer. La méditation, nous, on fait tous les matins, on rentre en classe, on fait des grands exercices de respiration, aussi d'écoute, d'attention, d'abord très éloigné, Tu vois, on écoute la rue, puis après on va écouter ce qui se passe dans l'école, puis après on écoute ce qui se passe dans la classe. On respire. L'enfant, il ne sait pas que c'est un jeu vraiment où je cherche quelque chose, mais il va se poser, il va se concentrer, il va fermer les yeux. Il y a plein de petits jeux comme ça que j'ai mis en place. On commence comme ça. Et du coup, indirectement, l'enfant, il va arriver à trouver une présence. Au lieu de se jeter sur son fruit parce qu'il a faim, on dit chocolat, chocolat. Bon, ben maintenant, souvent, je prends un fruit et je leur dis, ah, on va le toucher. Oh là là, et quand on l'ouvre, ça fait du bruit. Mais on va pas le manger tout de suite. Et on va le sentir, on va le goûter. On va regarder comment, oh, ça chatouille dans la bouche, oh, ça fait des abeilles. On trouve des petites choses comme ça, on sent. Des fois, on dit, oh, mais ça gargouille à l'intérieur, c'est le chemin du cœur, c'est le chemin du corps. Et donc, du coup, petit à petit, il prend conscience. C'est vraiment le côté interoceptif. C'est-à-dire que moi, j'espère leur donner un peu des clés de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps.
Comment est-ce qu'on va réussir à permettre à un enfant d'arriver à exprimer ses émotions ?
Alors, j'ai un petit jeu. J'ai une petite boîte transparente. Donc, c'est la boîte à émotions. Au début, je le dis pas comme ça. C'est une boîte. Dedans, il y a plein de petits visages qui expriment des choses. Et donc, le matin, donc toutes les petites étiquettes sont sur une table. Et donc, elles sont en double, en triple. Ils viennent la prendre et ils la mettent dans la petite boîte. On va la regarder et on va en parler aux copains. Ah, tu te sens comment aujourd'hui ? Oh, t'as pris un petit bonhomme qui était tout radiant, il était tout lumineux. Ah bah oui, t'as bien dormi, super. Il y en a qui ne veulent pas le dire, mais ils mettent juste l'étiquette. C'est un petit bonhomme qui est rouge de colère avec des cornes et qui crache du feu. Bah voilà, ça va pas. Je sais pas pourquoi, ça va pas. En plus, en petite section, on a qui n'ont pas encore le langage. Donc, on travaille là-dessus. On mime aussi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait quand on est en colère ? Comment le cœur bat ? Comment les muscles se contractent ? Comment le visage sourit quand on est heureux ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux ?
Émilie, quels enfants aimerais-tu laisser à la planète ? Quelles valeurs essentielles tu vois et tu aimerais pouvoir leur transmettre pour les générations à venir ?
C'est un monde dans lequel, le monde dans lequel ils vont rentrer est très dur. Ils vont être confrontés à beaucoup de frustrations et de désagréments. Et ils sont élevés un peu en petit roi. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'ils arrivent à se sécuriser et se dire qu'ils sont forts et bons. Et que grâce à eux, et pas forcément au groupe, à chacun avec une petite pierre, ils peuvent arriver à ce qu'ils veulent vraiment. Et aussi la gratitude. J'essaye de leur apprendre ce que c'est que d'être content d'avoir ce qu'on a. Et que, bon, on travaille sur tous les enfants du monde et je leur montre qu'on a une chance inouïe. Et le matin, on remercie le soleil d'être là. Et quand il n'est pas là, on va le chercher, on le met dans le corps et il réchauffe le corps. De se dire, voilà, bon, eh ben, on a envie de choses, on sera frustré beaucoup, mais quel bonheur d'avoir déjà ce qu'on a. L'altruisme, c'est quelque chose qu'on perd. Être présent aussi, présent avec l'autre. Voilà, se dire, je vais pas courir et regretter tout ce que j'ai fait. Je vais pas en train de faire un plan sur la comète parce que, bon ben là, je suis avec toi, Alexandre. Et ben, je suis vraiment avec toi. Je suis pas en train de me dire, putain, j'ai un rendez-vous dans 2 heures. Alors, c'est des valeurs plutôt morales. J'insiste pas trop sur toutes leurs compétences. J'aimerais qu'humainement, ils se rendent compte que la planète, ils ont un rôle à jouer dans la planète. Je travaille aussi, tu vois, ils gaspillent beaucoup le papier, ils utilisent ça comme ça. Qu'ils ont un sentiment écologie, vraiment, en se disant, bon ben voilà, c'est super, j'ai ce papier-là, il vient pas de nulle part, mais je vais en faire quelque chose de bien. Qu'ils essayent de trouver le positif, en ayant la sécurité qu'ils sont bons là-dedans et un peu de générosité parce qu'il en manque, il en manque, il en manque. De l'amour et de l'amour, voilà, voilà. Que j'aimerais ça.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.